Très content de le retrouver. J'avais hâte de prendre de ses nouvelles. On ne s'est pas parlé durant l'été, alors je vais y poser d'abord la première question qui suit. Patrick Friolet, salut.
Salut, Fox.
Est-ce que tu passes un bel été?
Un très bel été. Un été de décrochage, un été de baseball, parce que je coach l'équipe de Fiston au baseball aussi,
ouais,
à Chambly. Donc, puis là, on est en pleine course aux séries pour se classer pour les régionaux en fin de saison. Donc, c'est très excitant. On a eu énormément de baseball au mois de juillet. Ça a été très rempli. Donc, on s'est occupé pendant l'été. Puis là, ben, tranquillement, on commence à parler de hockey. Donc, c'est signe que ça s'en vient.
Ça commence. Puis les partisans sont très excités, Pat, avec les acquisitions de Bolduc et de Dobson également durant l'entre-saison. Avant de parler des différentes nouvelles concernant le Canadien, j'ai une belle surprise. Hier, j'ai pu visionner en exclusivité les deux premiers épisodes de la reconstruction au cœur des Canadiens de Montréal, dont les deux premiers épisodes vont être diffusés jeudi, demain, sur la plateforme Crave. Et je voulais te dire félicitations parce que j'ai vu que tu figurais à nouveau dans le documentaire. Et veux-tu savoir quoi? Moi, ce qui me surprend et ce que j'invite les auditeurs à écouter le documentaire, c'est qu'on voit vraiment tout. On voit les dessous de ce qui se passe au début de la saison. La blessure de Patrick Laine. Par la suite, on va voir également la blessure de David Rambacher. Alors, on suit de A à Z la saison du Canadien. Comment ça se fait à l'interne? Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu croises souvent? Hier, on discutait avec le réalisateur André Saint-Pierre. Est-ce que tu vois souvent l'équipe voyager avec la formation? Comment ça se déroule?
Bien, au cours des deux dernières années, là, André et son équipe sont vraiment sympathiques d'ailleurs. Là, des bonnes personnes qui sont des passionnés et qui font de la très belle TV. Je vous invite vraiment à regarder les... Si vous n'avez pas vu la première saison, ouais, vous pouvez rattraper un peu. Puis la deuxième, c'est prometteur. Je pense qu'on va encore plus loin. Puis on comprend à quel point on a pris des étapes. On les croise à quelques moments. Ils ciblent quelques voyages qu'ils veulent faire pendant l'année, où ils peuvent peut-être avoir une espèce d'histoire particulière ou un angle en particulier qu'ils veulent aborder. Donc, à ce niveau-là, ils sont pas toujours là, mais ils choisissent certains moments pendant la saison. Puis on les croise aussi à domicile à certaines occasions. Puis moi, parfois, je suis pas au courant, j'arrive, il y a un moment, justement, l'année dernière, je suis en Floride, entre Noël et le jour de l'an, justement, le fameux voyage en Floride. Et je vois qu'André est là, il m'aborde, « Hey, Pat, veux-tu nous parler un peu de ce qui se passe? » Tout ça. Donc, on fait une petite entrevue comme ça, on rattrape un peu le temps perdu, on aborde certains sujets. Donc, pour moi, c'est le fun, ça permet d'aller plus loin puis de voir un peu comment ils travaillent. Puis là, ben après ça, de voir le montage. On ne sait jamais, tu sais, souvent, on va s'être parlé 5-6 fois pendant la saison. Ouais. Il y a une entrevue un peu plus longue à la fin de l'année où on fait un peu le tour de la saison en entier dans certains éléments. Puis par la suite, ben là, c'est le montage qui va décider quels segments sont gardés. Donc, effectivement, je l'ai vu les deux premiers épisodes aussi. J'y participe à quelques occasions. Puis c'est le fun. C'est le fun parce qu'on voit vraiment les coulisses, on voit vraiment les gars, à quel point ils travaillent, à quel point les gars qui veulent revenir de blessure, c'est du travail acharné. Puis les communications entre Martin et ses joueurs, c'est vraiment le fun parce que c'est pour nous, comme journalistes, on est là sur le terrain, on est là quand on voyage avec l'équipe, on va couvrir les séances d'entraînement, on va dans le vestiaire. Par la suite, on va couvrir les matchs, même chose, on rentre dans le vestiaire après, mais il y a toujours ces moments-là où ils sont en équipe, où ils célèbrent, ou sinon où ils vivent une déception, puis par la suite, les portes du vestiaire vont ouvrir. Donc, nous, on n'a pas accès à tout. Et même nous, ça nous permet de voir les choses sous un angle différent parfois.
Ah, c'est génial, ça. C'est vraiment génial. J'invite les auditeurs à écouter cette saison 2. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, il y a juste deux épisodes qui sortent demain. Alors, ça vous permet également de revoir la saison 1 que j'avais écouté aussi à la base. Mais avec la saison remplie de hauts et de bas du Canadien l'an dernier, ça vaut la peine vraiment d'écouter cette saison 2 de la reconstruction au cœur des Canadiens de Montréal. Et ça m'amène à te parler d'un certain Patrick Laine. Parce que dans l'épisode numéro 1, il y a cette effervescence de l'arrivée de Patrick Laine et on a des confidences en coulisses de Kent Hughes qui mentionne notamment qu'il a parlé avec Nick Suzuki. L'extrait est disponible déjà sur les réseaux sociaux, mais qui discute avec Nick Suzuki la veille de l'échange pour lui demander si c'est une bonne idée. D'ailleurs, de parler avec son capitaine d'une éventuelle transaction au chapeau, je trouve ça génial, et d'avoir accès à ce contenu-là aussi. Et dans le cas de Patrick Laine, on le voit aussi suite à sa blessure dans le vestiaire, être avec le groupe. Et cet été, on a vu un Patrick Laine qui a pu s'entraîner dès le début de l'été pour être en forme pour le camp d'entraînement et la prochaine saison qui s'en vient. Crois-tu qu'on a été pas trop sévère, mais sachant que Patrick Laine se remettait déjà d'une blessure avec les Blue Jackets de Columbus, qu'on va voir un autre Patrick Laine au camp d'entraînement du Canadien et un autre Patrick Laine cette saison avec l'équipe?
Ben, moi, je pense que oui. Je pense que oui, on a été sévère, c'est sûr. Il y a des attentes. Puis, c'est aussi tout ce que l'acquisition de Patrick Laine a représenté. Parce que, justement, ce qu'on voit dans l'épisode, quand il consulte Nick Suzuki, ben, ça s'inscrit aussi dans ce qu'on veut bâtir avec le Canadien. On a toujours répété qu'on voulait bâtir une culture, qu'on voulait quelqu'un, que les joueurs qui viennent se greffent à la culture de l'équipe. Puis Nick Suzuki est le porte-étendard de ça. Donc, c'est sûr que de voir Patrick Laine arriver, il fallait que lui arrive avec le bon état d'esprit. Et même chose du côté des joueurs qui l'accueillent. Puis en même temps, ça lançait un message qu'on était prêt à franchir une étape de plus dans la reconstruction de l'équipe. Puis là, bien évidemment, de voir cette blessure-là dès le camp d'entraînement, de se dire, ben non, pas encore, une malchance. Puis de voir que l'effet qu'il y a eu quand finalement il a été en mesure de jouer son premier match, ben ça permet de voir vraiment les joueurs comment ils ont ressenti tout ça. Puis oui, c'est sûr qu'on a été sévère envers Patrick Laine parce qu'on s'attendait à avoir un joueur qui a marqué déjà 40 buts dans la Ligue nationale, qui est capable de marquer, qui est capable de faire la différence. Il le fait à certains moments. Moi, ce que je retenais aussi, c'est on a vu un gars qui s'est blessé au camp d'entraînement, qui était déjà blessé, comme tu le disais, qui a travaillé très fort pour revenir, qui s'est joint à l'équipe au mois de décembre. C'est pas facile, là. C'est pas facile de sauter sur le train puis d'arriver à la même vitesse, avec la même vigueur que tous les autres joueurs qui sont déjà dans leur forme de mi-saison. Il a quand même été capable de participer puis de le faire, puis d'avoir de très bons résultats quand même, soit dit en passant. Sauf que là, moi, je me disais à la fin de la saison, j'ai hâte de voir le Patrick Laine qui va avoir un été complet d'entraînement. Quel genre d'état d'esprit il va avoir? Comment il va se présenter au camp d'entraînement? Puis je pense qu'en ce moment, on est capable de cocher toutes les cases parce que ce qu'on voit, c'est qu'il est là tous les jours, il s'entraîne, il est toujours là avec Ivan Demidov. Là, il y a d'autres joueurs aussi qui s'entraînent. Puis le fait qu'il ait passé l'été à Montréal, je trouve que c'est déjà un message. C'est déjà un message de dire, regarde, je prends les choses au sérieux. J'aime le Canadien, il l'a dit plusieurs fois, il est heureux ici. Ben là, de voir qu'il prend les choses autant au sérieux puis qu'il se présente au camp d'entraînement, moi, j'ai vraiment hâte de voir. Est-ce que tout à coup, il va patiner 5 fois plus vite que l'an passé? Ben écoute, ça demeure quand même un joueur qui a prouvé des choses dans la Ligue, puis on sait quel genre de joueur il est. Ça sera pas toujours le plus rapide pour se replier défensivement, ça, c'est sûr. Mais quand vient le temps de marquer des buts, c'est un gars qui est capable de faire la différence dans des espaces restreints, qui est capable de trouver des espaces pour marquer des buts. Il va juste falloir qu'on le complète de la bonne façon, puis que lui, il mette du sien aussi pour être capable de bien livrer.
Oui, Kent Hughes le dit aussi dans son bilan de fin de saison. Sans Patrick Laine, le Canadien n'est pas en séries éliminatoires. Son apport offensif, dès qu'il est revenu au jeu, et un retour au jeu aussi, comme tu le mentionnes, au début du mois de décembre, alors qu'on se disait Patrick Laine, ça va prendre un peu plus de temps avant de le revoir. Peut-être qu'on a précipité son retour. Peut-être que dans le cas de Patrick Laine, il avait très, très hâte de se joindre au groupe. C'est documenté aussi que Patrick Laine avait plus le même plaisir de jouer au hockey, de revenir ici à Montréal. Il en a reparlé cet été à quel point ça lui a fait du bien de retrouver un noyau de joueurs avec qui il s'entend aussi bien. Est-ce que tu aurais un problème à ce qu'on commence la prochaine saison avec un trio formé de Demidov, Patrick Laine et un autre joueur parmi ces deux-là?
Ben moi, j'aimerais savoir ça, c'est sûr. Je pense que on a vu l'an dernier à quel point Caulfield, Suzuki, Slavkovski sont capables d'avoir du succès ensemble. Slav, ça a été encore un départ lent. Est-ce qu'il va arriver avec un petit peu plus le couteau entre les dents puis être capable d'avoir des résultats plus rapidement, peut-être? Mais tu sais, je pense que Laine, si on veut lui donner une vraie chance, puis qu'il lui nous prouve aussi, il prouve à l'organisation qu'il est capable de faire les choses de la bonne façon puis d'attaquer le camp d'entraînement de la bonne façon. Si on le met dans des bonnes dispositions, il va bien répondre. Moi, il y a une chose, tu sais, on entend beaucoup de critiques, comme on le disait là, sur Patrick Laine, sauf que moi, je me rappelle très bien l'an dernier, quand il est arrivé au camp d'entraînement du Canadien, qui embarquait sur la glace et qui pratiquait ses tirs, on le savait là, qu'il se remettait d'une blessure à une épaule, on le savait que les choses n'étaient pas 100% comme il le souhaitait. Puis je voyais un gars qui décochait des tirs puis qui tapait son bâton sur la glace parce que c'était pas exactement comme il voulait. Il a toujours travaillé extrêmement fort pour peaufiner son art. On n'est pas capable de placer une rondelle dans une boîte comme ça, là, dans un espèce de petit espace dans le haut du filet par sens. On fait ça parce qu'on travaille, on fait ça parce qu'on pratique. Cole Caulfield est capable de le faire aussi. C'est pas quelque chose qui, tout à coup, oui, on a un bon talent pour marquer, on a un talent pour décocher des tirs, sauf que pour être capable de placer la rondelle aussi naturellement que ça, ça prend des répétitions. Puis Patrick Laine a toujours travaillé pour ça. Est-ce que le reste de son jeu, il y a des choses qu'on doit accepter? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr à 100%. Mais moi, j'ai toujours dit que le plus dur envers lui-même, c'est Patrick Laine. Puis regardez toutes les entrevues qu'il a faites après des matchs où il a marqué des buts. Il était jamais entièrement satisfait. Moi, c'est ça que j'aime de ce gars-là. C'est que malgré tous les succès qu'il peut avoir eu ou malgré les moments plus difficiles, ben il a jamais été satisfait. Donc, est-ce que ça va l'aider à avoir un carburant de plus pour avoir une grosse année? Parce que, encore une fois, on le dit, c'est sa dernière année de contrat. Il va vouloir... Est-ce qu'il veut rester à Montréal, peut-être? Est-ce qu'il veut se servir de cette année-là pour mousser encore plus sa valeur puis aller ailleurs? Ça, c'est lui qui détient les clés de la décision. Mais moi, je pense que la passion de jouer au hockey, il l'a vraiment retrouvé à Montréal, avec Martin Saint-Louis, dans un bel environnement. On l'a bien accueilli. Tout est là pour qu'il puisse avoir du succès cette année. Mais là, rendu là, c'est lui qui va tenir le volant.
Oui, bien d'accord avec toi là-dessus. Dans une entrevue réalisée avec lelnh.com, Kent Hughes a parlé de Kirby Doc, dont on aimerait bien voir pour le premier match de la saison régulière. Par contre, on est moins confiant. Il a mentionné notamment, nous espérons qu'il sera prêt à jouer au début de la saison ou sinon après quelques semaines d'action. Est-ce que Kent Hughes commence à mettre la table pour que Kirby Doc, un gars qui n'aura pas participé en plus au camp d'entraînement de l'équipe, qui se remet toujours d'une blessure, soit prêt pour le premier match de la saison? J'en doute. Est-ce que toi, c'est quelque chose dont qui t'inquiète un peu de voir que Kirby Doc pourra pas être là pour le premier match de la saison? Tu te dis, vaut mieux dans le cas de Kirby Doc, dont c'est sa dernière année de contrat, avec restriction à la fin de la saison par contre, de prendre le temps nécessaire et de revenir à 100%, de le voir, de pas précipiter sa remise en forme pour un gars qui a été souvent blessé en plus au courant des dernières années. Comment tu vois ça dans le cas de Kirby Doc, dont la présence est incertaine pour le premier match de la saison?
Ben, moi, je veux être prudent avec tout ce qu'on entend parce que on l'a pas encore vu dans le camp d'entraînement. Il y a encore plusieurs semaines avant que la saison commence. On nous avait dit des belles choses sur sa remise en forme. Est-ce que là, il y a eu un pas de recul? C'est possible. Est-ce qu'on veut peut-être, du côté du Canadien, enlever un peu de pression à Kirby Doc, tu sais, en disant qu'il est peut-être pas prêt pour le début de la saison? Si on vous dit l'inverse, si on vous dit Kirby Doc, là, il va être au jour 1 au camp d'entraînement, il va être à 100%, il va être prêt. Qu'est-ce qui arrive si 2-3 semaines après, pendant le camp d'entraînement, on trouve qu'il n'est pas au sommet de sa forme? Là, tout à coup, on va remettre une dose de pression, puis Kirby Doc va se retrouver, bon, ben c'est beau, il n'est pas prêt. Il va falloir qu'il se remette dans le bain, c'est sûr. Là. Il y a quand même eu 2 saisons où il y a eu des blessures. Malgré le fait qu'il va avoir une bonne, même s'il y a un très bon été de préparation, puis qu'il y a un bon camp d'entraînement, il va quand même falloir qu'il prenne son rythme en début de saison. Ça ne sera pas parfait. Mais il faut qu'il mette les chances de son bord parce que c'est sûr que Kirby Doc doit arriver dans une forme resplendissante, doit être prêt. Et est-ce que ça garantit des résultats tout de suite en partant? Non. Sauf que il faut qu'il saisisse cette occasion-là. Moi, j'ai été, j'en ai parlé souvent avec Greg l'an passé, là, pendant des interventions où que le sujet de Kirby revenait souvent. Puis, j'ai pas lancé la serviette dans son cas. Je pense que pour la même raison qu'avec Patrick Laine, on avait un gars qui a été blessé. C'est difficile de rattraper le temps perdu. Rappelez-vous de Brendan Gallagher, là, qui, pendant quelques années, on disait, bon, encore une blessure, c'est difficile, il n'est pas capable de rattraper. Mais à un moment donné, quand on a un bon été, puis qu'on est capable d'attaquer les choses de la bonne façon, puis qu'on évite les blessures, ben là, c'est là où il va être capable de bâtir une certaine constance dans son jeu qu'il n'a pas été capable de faire au cours des dernières années. Donc, j'ai hâte de voir, mais avant de dire est-ce qu'il va être prêt, est-ce qu'il va être pas prêt pour le début de la saison, je préfère attendre de le voir au camp d'entraînement puis qu'on le constate de nos yeux. Puis
on peut tempérer un peu les attentes aussi en disant que le Canadien a fait l'acquisition d'un gars comme Zach Bolduc, que Patrick Laine est en pleine forme à l'heure actuelle, devrait commencer la saison à moins d'une malchance comme l'an dernier, que tu as d'autres éléments offensifs en place pour pouvoir prendre une place dans cet alignement-là et que le Canadien a fait les séries l'an dernier sans l'apport de Kirby Doc qui s'est blessé en février. Alors, avec tous ces éléments-là, ça peut tempérer les attentes, ça peut faire en sorte qu'il revienne au bon moment et connaisse du succès. Tant mieux pour Kirby Doc, je serais très content pour lui. Je veux finir avec Lane Hutson. Pat, Lane Hutson, le nom sur toutes les lèvres au courant de la dernière saison chez les partisans du Canadien. Lui qui a été ignoré au camp d'orientation de la formation américaine. Et hier, je me suis un peu emporté en ondes parce que pour moi, Pat Lane Hudson n'aurait pas fait nécessairement la formation américaine en 2026 à Milan. Mais là, on parle d'un camp d'orientation où tu invites beaucoup de gars. Cole Caulfield a reçu cette invitation. Et en défense, il y a 16 noms qui figurent parmi cette liste-là. Et Lane Hudson n'y figure pas. Et je comprends que pour Bill Guérin, peut-être, on veut y aller avec des défenseurs de plus gros gabarit. Mais quand je regarde le nom de certains défenseurs dans cette liste, les Jackson Lancôme, en qui j'enlève rien, au Doug Zanheim, qui est un jeune défenseur offensif qui a un excellent lancé, mais que aussi il y a des noms comme Neil Pionk, comme Brady Shea, qui a ralenti la saison dernière. Quand je vois des noms comme ceux-là, j'ai un peu de misère à comprendre la décision de la formation américaine de ne juste pas inviter Lane Hudson dans un camp d'orientation où le point, c'est d'évaluer ton talent en vue des Jeux olympiques de 2026 à Milan.
Mm-hmm. Ben, je suis un peu d'accord avec toi. Je suis pas dans la tête de Bill Guérin, c'est sûr, mais en même temps, je pense qu'on essaie de bâtir une équipe la plus complète possible avec des personnalités, des joueurs aux profils différents. Si on regarde les choses froidement, puis qu'on a Quinn Hughes dans une équipe, est-ce que Quinn Hughes et Lane Hudson peuvent être les deux dans la même équipe? Dans le sens où si on est un homme de hockey, on se dit, ben là, Quinn Hughes, c'est un peu Lane Hudson et vice-versa. Quinn Hughes a un peu plus d'expérience. Mais qu'est-ce qui arrive si Quinn Hughes se blesse? C'est sûr qu'on manque pas de défenseurs offensifs. Là. Quand on regarde la liste, quand même, on a des gars comme...
c'est vrai,
on a Adam. Des gars comme Brock, ouais. Faber, on a Adam Fox, on t'a parlé de Zach Werenski, là, Quinn Hughes, Luke Hughes, tout ça. Ces gars-là, Seth Jones qui a eu une très bonne saison l'an dernier, Charlie McAvoy qui a été blessé l'an passé. T'sais, est-ce qu'il y aurait une place dans l'équipe pour Lane Hudson? Probablement que non, parce qu'il y a quand même seulement 6 défenseurs, mais le fait de ne pas l'inviter, je trouve ça spécial. Parce que, tu sais, oui, c'est une recrue qui vient de gagner le trophée Calder, justement. Si c'est pas pour 2026, peut-être que dans les années subséquentes, il y aurait une place pour Lane Hudson. À ce moment-là, pourquoi on ne l'a pas invité? Est-ce qu'on était limité dans le nombre de joueurs qu'on devait avoir? Ça prend des profils différents. Un Alex Vlasic qui fait 6 pieds 6 pouces. Pourquoi lui? Je ne sais pas. est-ce qu'on a besoin d'un gars qui a un plus gros gabarit dans la brigade défensive pour les Jeux olympiques? Peut-être. Je ne dis pas que c'est Alex Vlasic qui va faire l'équipe. Là, il y a quand même plusieurs noms très intéressants dans cette équipe-là. Puis il y en a qui ne seront pas choisis, puis ça va presque être un scandale. Mais dans le cas de Lane Hudson, c'est sûr qu'on a eu les yeux sur lui tout le long de la saison passée. Moi, il y a une chose, c'est que on lit des choses sur Lane Hudson comme quoi c'est un gars qui est offensif. Ben, moi, je trouve que défensivement, il a prouvé des choses au cours de la dernière année. Il a démontré que malgré sa stature un peu plus petite, il est capable de bien se positionner, il est capable de gagner des batailles pour la rondelle sans que ce soit juste le jeu physique. C'est le positionnement, c'est l'intelligence du jeu. Mais en même temps, écoute, Bill Guérin prend les meilleures décisions qu'il peut pour son équipe. Puis il y a quand même une liste assez intéressante. Donc à ce niveau-là, il voyait pas Lane Hudson dans ce camp-là, mais ça veut pas dire que les portes sont fermées définitivement pour lui.
Patrick Friolet, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps durant tes vacances en plus. Je te laisse aller, je te laisse vaquer à tes occupations. Je sais que tu as du baseball qui s'en vient pour ton gars aussi au courant des prochains jours et des prochaines semaines. Alors, je sais que tu as un été quand même très occupé. Alors, un gros merci de nous avoir accordé du temps aujourd'hui.
Un grand plaisir. Bien hâte de vous retrouver.
Merci beaucoup. Merci. Patrick Friolet qui était avec nous.